Chapitre 2. Un second cerveau, c'est quoi? Nous dépassons nos limites non pas en faisant vrombir notre cerveau comme une machine ou en le musclant, mais en émaillant notre monde de matériaux riches que nous intégrons à nos pensées. Annie Murphy-Paul, autrice de The Extended Mind. L'information constitue la matière première de tout ce que nous entreprenons. Tout ce que nous désirons mener à bien, exécuter un projet professionnel, décrocher un nouvel emploi, lancer une entreprise, demande de trouver et d'utiliser la bonne information. Notre succès professionnel et notre qualité de vie dépendent directement de notre capacité à gérer l'information de manière efficace. Selon le New York Times, la consommation d'informations journalières d'un individu moyen atteint le chiffre remarquable de 34 gigaoctets. Une autre étude citée par le même quotidien estime que nous consommons chaque jour l'équivalent de l'intégralité du contenu de 174 journaux, soit 5 fois plus qu'en 1986. Le plus souvent, au lieu de nous fortifier, ce déluge d'informations nous submerge. En accaparant nos ressources mentales et en nous faisant constamment craindre d'oublier quelque chose, cette surcharge s'est muée en épuisement informationnel. Alors que l'accès instantané au savoir mondial par le biais d'Internet était censé nous éduquer et nous informer, il a sapé notre capacité d'attention. Selon une étude de Microsoft, l'employé américain moyen consacre 76 heures par an à rechercher des notes, des objets ou des fichiers égarés. Un rapport de l'International Data Corporation a aussi montré que 26% de la journée d'un travailleur du savoir est passée à chercher et à consolider des informations éparpillées sur plusieurs systèmes. Pire encore, ce n'est que dans 56% des cas que l'employé trouve l'information requise pour faire son travail. En d'autres termes, nous travaillons 5 jours par semaine, mais nous en consacrons plus d'un à ne faire que chercher de l'information qu'une fois sur deux nous ne trouvons pas. Il est temps pour nous de mettre notre cerveau paléolithique à niveau. Il est temps d'admettre que nous ne pouvons pas utiliser notre tête pour y stocker tout ce que nous avons besoin de savoir, et que nous pouvons confier le soin à des machines intelligentes de nous rappeler ces informations. Nous devons reconnaître que les demandes du monde moderne sur notre système cognitif augmentent d'année en année alors que notre cerveau est resté le même qu'il y a 200 000 ans, quand les premiers hommes modernes sont apparus dans les plaines d'Afrique de l'Est. Chaque bribe d'énergie que nous consacrons à tenter de nous rappeler certaines informations est de l'énergie que nous ne consacrons pas à des activités proprement humaines, inventer de nouvelles choses, élaborer des histoires, repérer des schémas récurrents, suivre notre intuition, collaborer avec autrui, nous documenter sur de nouveaux sujets, planifier, tester des théories. Chaque minute passée à jongler mentalement avec tout ce que nous avons à faire est du temps que nous pourrions consacrer à des projets plus intéressants tels que cuisiner, nous occuper de nous, pratiquer nos hobbies, nous reposer ou passer du temps avec ceux qui nous sont chers. Malgré tout, ce n'est pas si simple. Chaque changement dans la manière dont nous nous servons d'une technologie demande aussi un changement dans la manière dont nous réfléchissons. Pour profiter pleinement du pouvoir que procure un second cerveau, nous devons créer de nouvelles relations avec l'information, la technologie et même avec nous-mêmes. L'héritage des mémentos. Pour bien appréhender notre époque, référons-nous à l'histoire pour en tirer des leçons sur ce qui a fonctionné en d'autres temps. L'habitude de coucher par écrit ses pensées et de prendre des notes pour donner un sens au monde remonte à loin. Pendant des siècles, des artistes et des intellectuels allant de Léonard de Vinci à Virginia Woolf, de John Locke à Octavia Butler, ont noté les idées qu'ils jugeaient intéressantes dans un type de carnet spécifiquement dénommé « Commonplace Book ». Et dont il ne se séparait jamais. Dans son ouvrage « Apologie du livre », l'historien et ancien directeur de la bibliothèque de l'université de Harvard, Robert Danton, explique ainsi leur rôle. Contrairement aux lecteurs modernes qui suivent un fil narratif de son commencement à sa fin, les Anglais du début des temps modernes lisaient par bribes et passaient d'un livre à un autre. Ils fragmentaient les textes et réassemblaient ces derniers en les transcrivant à leur convenance dans différentes sections de leur carnet de notes. Puis ils relisaient les passages copiés et les réarrangeaient tout en ajoutant de nouveaux extraits. La lecture et l'écriture étaient donc deux activités inséparables. Elles faisaient partie d'un effort continu visant à donner un sens aux choses, puisque le monde était riche de signes que l'on pouvait déchiffrer, et rendant compte de ces lectures, on constituait son propre livre, marqué par la personnalité du lecteur. Ces mementos étaient le véhicule qui permettait aux individus éduqués d'interagir avec le monde. Ils dessinaient sur ces carnets durant leurs conversations, s'en servaient pour lier entre elles des bribes d'informations d'origine variée et comme source d'inspiration. En tant que société, nous pourrions tous bénéficier de l'équivalent moderne des mementos. Le paysage médiatique d'aujourd'hui est orienté vers ce qui est nouveau et public. La dernière controverse politique, le dernier scandale impliquant une célébrité ou le même viral du jour. Ressusciter l'idée du memento nous permet de contenir la marée en mettant l'accent sur l'intemporalité et l'intérêt personnel de l'information. Plutôt que de consommer de plus en plus d'informations, adoptons une approche plus sereine et réfléchie qui favorise la relecture, la reformulation et une réflexion sur les implications à long terme des idées. Cela rendrait non seulement les discussions plus courtoises, mais préserverait aussi notre santé mentale et aiderait à recoller les morceaux de notre attention fracturée. Il ne s'agit pas d'un simple retour au passé, car nous pouvons remettre la pratique des mementos au goût du jour en la dopant et en transformant cette pratique historique en quelque chose de nettement plus flexible et accessible. Le memento numérique. Quand nos notes et observations sont numérisées, nous pouvons les consulter, les organiser et les synchroniser sur tous nos appareils et même les sauvegarder sur le cloud. Au lieu de gribouiller des informations sur des bouts de papier en espérant que nous serons en mesure de les retrouver plus tard, nous pouvons cultiver notre propre chambre forte de savoir de façon à toujours être en mesure de trouver ces derniers. Selon l'écrivain et photographe Craig Mod, il existe une opportunité évidente de consolider nos myriades de marginalia pour constituer un commonplace book encore plus puissant. Celui-ci serait consultable, toujours accessible, aisément partageable et enchâssé dans le texte numérique que nous consommons. Le terme marginalia fait référence aux notes prises en marge des livres ou d'autres documents. Le memento numérique est ce que j'appelle un second cerveau. Voyez-le comme un mix de cahiers d'études, de journal intime et de carnet de croquis pour vos idées. C'est un outil à usage multiple qui s'adapte à vos besoins selon leur évolution au cours du temps. En cours, il vous servira à prendre des notes pour étudier. Au travail, il vous aidera à organiser vos projets. Chez vous, il facilitera la gestion de votre ménage. Il constitue un ensemble de savoirs multi-usages qui vous sont propres, destinés à alimenter votre croissance et votre apprentissage dans votre vie. C'est un laboratoire où vous pourrez développer et affiner votre pensée seule avant de la partager avec autrui. Un studio où vous pourrez jouer avec des idées jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être mises en pratique. Un tableau blanc où vous pourrez brosser vos réflexions à grands traits en invitant d'autres que vous à les enrichir. Dès que vous aurez compris que les outils numériques nous servent naturellement à étendre notre pensée au-delà des limites de notre cerveau, vous commencerez à avoir des seconds cerveaux partout. Ainsi, une application de calendrier est une extension de la capacité de notre cerveau à se souvenir d'événements en nous garantissant que nous n'oublierons jamais un rendez-vous. Notre smartphone est une extension de notre capacité à communiquer en permettant à notre voix de traverser des océans et des continents. Et le stockage de données dans le cloud est une extension de notre mémoire en nous permettant de sauvegarder des milliers de gigaoctets auxquels nous pouvons accéder depuis n'importe où. Il est temps d'ajouter les notes numériques à notre répertoire et de nous appuyer sur la technologie pour enrichir nos capacités naturelles. Repenser la prise de notes, les notes comme des briques de savoir. Dans les siècles passés, seule l'élite intellectuelle, écrivains, politiciens, philosophes et scientifiques, avait besoin de mémentos pour synthétiser ses écrits ou ses recherches. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Plus de la moitié des actifs peuvent être considérés comme des travailleurs du savoir, c'est-à-dire des individus pour qui les connaissances constituent le bien le plus précieux et qui passent le plus clair de leur temps à gérer de vastes quantités d'informations. De plus, quel que soit notre rôle formel, nous devons tous avoir de nouvelles idées, être capables de résoudre des problèmes inédits et savoir communiquer avec autrui de façon efficace, et ce, de manière régulière et fiable. En tant que travailleur du savoir, où résident vos connaissances? Où sont-elles emmagasinées une fois créées ou découvertes? La notion de savoir peut sembler intimidante et réservée aux érudits et aux intellectuels, alors qu'en fait elle commence avec la pratique simple et éprouvée de la prise de notes. La plupart des individus ont appris à le faire à l'école. On a probablement commencé par vous demander de noter telle ou telle information parce qu'elle allait faire partie des choses à retenir pour un contrôle. Cela voulait aussi dire qu'une fois le contrôle passé, jamais plus vous ne relisiez vos notes. L'instruction était essentiellement considérée comme jetable, à usage ponctuel. Quand vous démarrez dans le monde professionnel, les demandes relatives aux prises de notes changent du tout au tout. Ce que vous avez appris à l'école devient non seulement obsolète, mais l'exact contraire de ce qu'il faut faire. Dans le monde professionnel, personne ne vous dit quoi noter. Personne ne vous dit quand ou comment vos notes seront utilisées. L'examen peut arriver à tout moment et sous n'importe quelle forme. Vous pouvez vous référer à vos notes quand vous le voulez, à supposer que vous en ayez pris. On n'attend pas de vous que vous régurgitiez le contenu de vos notes, mais qu'elles vous permettent d'agir opportunément. Cela n'a donc rien à voir avec ce que vous avez appris à l'école. Il est temps de changer de perspective et de réaliser que cette pratique peut être bien plus intéressante et dynamique. Dans sa version moderne et professionnelle, la prise de notes constitue une brique de savoir, une unité à part entière d'informations interprétées de façon unique par vous et stockées hors de votre tête. Ainsi définie, une note peut être constituée, entre autres, d'un passage d'un livre ou d'un article qui vous a inspiré, d'une photo ou d'une image du web annotée par vos soins ou d'une liste de vos pensées désordonnées sur un sujet donné. Une note peut aussi bien se résumer à une citation extraite d'un film qui vous a marqué qu'à un long extrait d'un livre ardu que vous aurez lu. Peu importe la longueur ou le format, du moment que vous avez interprété l'information, que vous l'avez classifiée selon vos critères, traduite dans vos propres mots ou tirée de votre expérience personnelle et sauvegardée en un lieu sûr, c'est une note. Une brique de savoir constitue une entité indépendante dotée d'une valeur intrinsèque. Cependant, combinée à d'autres, elle peut devenir quelque chose de très complexe. Un rapport, un argumentaire, une proposition, une histoire. De même que les pièces de Lego avec lesquelles vous jouiez enfant, ces briques peuvent rapidement être consultées, récupérées, déplacées, assemblées et réassemblées pour composer de nouvelles formes sans que vous ayez à tout réinventer chaque fois. Vous devez faire l'effort de créer une note, une bonne fois pour toutes, après quoi vous pourrez la combiner de toutes les façons que vous voulez jusqu'à ce qu'un déclic ait lieu. La technologie ne fait pas que rendre la prise de notes plus efficace, elle en change aussi la nature. Nous n'avons plus besoin de cataloguer et de transcrire avec soin nos pensées sur des post-it ou dans des carnets qui, par nature, peuvent se délabrer, s'égarent aisément et ne se prête pas à des recherches. À présent, C'est dans le cloud qui nous suit partout que nous écrivons nos notes. Dorénavant, nous prélevons des briques de savoir et nous nous servons du temps dont nous disposons pour imaginer ce que, une fois combiné, il pourrait en résulter.